Merci d'écouter RFI, les 7h30 à Paris et Kinshasa, une heure de moins en temps universel. L'heure du journal. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous. Ce journal qui débutera dans l'est de la RDC avec l'avancée de la FCM-23 qui s'y poursuit. Ces éléments ont pris le contrôle dimanche d'une localité sur le territoire de Massissi au nord Kivu. Le sort ensuite de notre correspondant Olivier Monodji au Tchad, inquiété pour des écrits tenus dans l'hebdomadaire Le Pays dont il est directeur de publication, inculpé avec 3 autres personnes pour intelligence avec une puissance étrangère. Un projet de rupture visant la réduction du train de vie de l'État et la suppression de certaines institutions. Au Gabon, voilà le programme d'Alain-Claude Billy Binzé pour la présidentielle. Le dernier Premier ministre d'Ali Bongo l'a présenté hier. La première session parlementaire de l'année attendue aujourd'hui au Cameroun et l'opposition qui espère en amont de la présidentielle prévue cette année obtenir une réforme du code électoral. Et puis, ce qui était un vrai séisme sanitaire il y a 5 ans lorsque l'OMS déclarait la pandémie de Covid, un drame qui mettait en lumière le besoin de développer la souveraineté vaccinale du continent. Mais où en est-on aujourd'hui? On fera le point dans notre dossier. L'armée congolaise tout d'abord, qui est toujours sous pression dans l'est de la RDC avec la prise de Goma en janvier, avec Bukavu le mois dernier et les combats qui continuent donc au sud comme au nord Kivu, où les hommes de l'AFC M23 se sont emparés dimanche de Niabiondo, localité située à une centaine de kilomètres à l'ouest du chef-lieu provincial Goma. On fait le point sur ces différentes lignes de front avec Patient Ligodi.
Ces 4 derniers jours, l'AFC M23 a consolidé son emprise sur le territoire de Massissi. Après la prise de Niabiondo dimanche, ces groupes soutenus par le Rwanda pourraient poursuivre son avancée vers Kachébéré. Cet axe mène directement au Walikale Centre, encore sous le contrôle des forces armées congolaises. Kachébéré se trouve à environ 120 km de Walikale Centre. Si cette localité venait à tomber, l'AFC M23 pourrait alors accéder à la route nationale numéro 3, un corridor qui relie Walikale à Kisangani. Face à cette menace, les autorités congolaises assurent avoir renforcer la sécurité sur cet axe pour contenir la progression des rebelles. Dans le sud Kivu, la situation est différente. Le front de Kamanyola qui donne sur Uvira s'est stabilisé depuis 2 semaines. C'est à Uvira que le gouvernement provincial du sud Kivu s'est replié après la chute de Bukavu. Mais les affrontements se poursuivent plus au sud, notamment dans la chefferie des Kaziba, dans le territoire de Walungu, à plus de 50 km de Bukavu. Ici, les forces armées congolaises et le groupe Wazalendo tentent de contenir l'avancée de l'AFC M23. Enfin, dans le nord Kivu, un développement majeur s'est produit dans le territoire de Lubero. Dimanche, le général autoproclamé Kasereka Kassiano, qui dirigeait l'un des groupes Wazalendo, a annoncé son ralliement à l'AFC M23. Sur ces fronts, selon l'armée congolaise, un militaire rwandais a été capturé et 4 combattants de l'AFC M23 s'y sont rendus.
Patient Ligodi, et dans ce contexte mouvant sur le terrain, dans l'est de la RDC, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs était lui à Kinshasa hier, où il a rencontré le président Tshisekedi. Wang Xia effectue en ce moment une tournée dans les pays de la région avant une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies le 4 avril. L'émissaire onusien qui reste convaincu que la résolution ayant exigé le 21 février le retrait des troupes du M23 et du Rwanda est la meilleure voie vers la paix. Je vous propose d'écouter ce que Wang Xia a déclaré justement à l'issue de son entretien avec le président congolais.
Le président Tshisekedi a bien voulu nous consacrer beaucoup de temps pour m'a livré sa lecture sur la situation de crise dans la région des Grands Lacs, surtout à l'est de la RDC. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Heureusement, la communauté internationale, les communautés sous-régionales, l'Union africaine sont plus mobilisées. Aujourd'hui, il y a cette résolution 2773. Comment la mettre en application? Comment reprendre rapidement le processus de Luanda et le processus de Nairobi? Et c'est là l'enjeu immédiat à relever pour désescalader la tension et après mieux gérer les enjeux à moyen et à long terme.
L'émissaire onusien Wang Xia, la RDC qui est par ailleurs engagé dans des discussions pour l'exploitation de ces minerais par les États-Unis. L'administration Trump, qui lorgne les ressources naturelles en ce moment, Ukraine, Groenland et celle de la RDC, donc discussion confirmée par le département d'État américain, des discussions exploratoires selon la diplomatie américaine. La RDC encore et ce nouveau naufrage dans la nuit de dimanche à lundi. Il a fait au moins 25 morts dans le sud-ouest du pays, sur la rivière Kwa, dans la province du Maïndombé. L'embarcation transportait des joueurs d'un village qui revenait d'un match de foot sur le territoire de Mouchier. Au moins 30 personnes ont cependant pu être secourues.
N'Djamena, 100.2 FM.
Arrêté mercredi dernier à N'Djamena, notre confrère Olivier Monodji a été placé hier sous mandat de dépôt, notre correspondant au Tchad, mais aussi le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays. Et d'ailleurs, après 5 jours de détention, Olivier Monodji a appris hier qu'il est inculpé pour des écrits dans ce média. Justement, inculpé pour intelligence avec une puissance étrangère après une audition devant le procureur de la République. Le tribunal de grande instance a ensuite affirmé avoir reçu des documents selon lesquels des Tchadiens auraient fourni des informations sur la sécurité et l'économie du pays à une puissance étrangère sans plus de précision. En tout cas, dans ce dossier Esdras Dikoumana, Olivier Monodji est mis en cause avec 3 autres personnes, dont un autre journaliste du service public.
Le procureur de la République près le TGI N'Djamena a précisé dans sa courte déclaration aux médias tchadiens Al-Wida Info ce qu'on reproche aux 4 inculpés, des charges très lourdes, Oumar Mahmat Kedelaï.
Après leur interrogatoire, il a été constaté que les faits qui leur sont reprochés sont constitutifs d'infractions, des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad, à ses intérêts économiques, de complot contre l'État et de complicité. Eu égard à la gravité des faits, une information judiciaire a été ouverte pour citer la responsabilité de tout un chacun.
Les 4 hommes ont ensuite été entendus par le doyen des juges d'instruction qui les a inculpés pour intelligence avec l'ennemi et pour complot ou encore atteinte à la sécurité du territoire national qui est passible d'une peine de 20 à 30 ans de prison selon un des avocats d'Olivier Monodji. Celui-ci dénonce un dossier vide à ses yeux, Maître Amos Alata.
On attendait qu'il nous dise le degré d'implication de notre client qui est journaliste de profession. Nous lui avons rappelé à la police du judiciaire, on lui a présenté que des coupures de presse dont il a reconnu la publication dans son site du journal Le Pays, des informations qui ont un caractère plutôt publicitaire. Mais on n'a pas dit qu'est-ce que M. Olivier a fait concrètement.
La mission du doyen des juges d'instruction, approfondir celle-ci pour situer la responsabilité de chacun des mises en cause. En attendant, tous les 4 ont été placés sous mandat de dépôt et acheminés vers la maison d'arrêt de Kressoum pour y être incarcérés.
Et ajoutons, Esdras Dikoumana, que l'avocat d'Olivier Monodji assure que sa production pour RFI n'est pas mise en cause dans cette affaire. Ils étaient 23 prétendants pour l'élection présidentielle du mois prochain au Gabon, mais parmi eux, seuls 4 ont vu leur candidature validée. Face au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, il y aura donc notamment l'ex-premier ministre Alain-Claude Billy Binzé. Il a justement présenté son programme hier à Libreville. Yves-Laurent Goma l'a écouté.
Alain-Claude Billy Binzé propose aux Gabonais un projet de rupture. En cas de victoire, le dernier premier ministre d'Ali Bongo promet de réduire le train de vie de l'État en supprimant des institutions comme le Sénat, le Conseil économique et social et la médiature de la République. Il promet de faire de la lutte contre le chômage sa priorité.
Partout où je suis passé au Gabon, la priorité qui m'a été présentée par les populations, c'est la question de la lutte contre le chômage des jeunes. J'entends donc faire de la question de la jeunesse et de l'emploi des jeunes la priorité du septennat. Il faudra que la jeunesse gabonaise s'épanouisse, qu'elle trouve un emploi et les mécanismes seront mis en place pour cela.
Second volet de son programme, la souveraineté du Gabon.
Faire en sorte que le Gabon reconquiert son indépendance. Indépendance économique, financière, diplomatique, indépendance militaire également. Il faut revoir les accords de coopération avec la France, indépendance alimentaire. J'entends également mettre un coup de rabot aux finances publiques pour faire en sorte que nous soyons un État qui gère mieux ses ressources, faire revenir les bailleurs de fonds internationaux dans une discussion franche sur la question de la dette pour pouvoir dégager des marges de manœuvre et investir davantage.
Pour mettre en œuvre ce projet de société, Alain-Claude Billy Binzé invite les Gabonais à voter pour lui. Il affirme être le bon choix pour changer et développer le Gabon. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
La vie politique camerounaise à présent et l'ouverture ce matin de la première session parlementaire. Comme il est de coutume, elle sera dédiée au renouvellement des bureaux des 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais année électorale oblige, l'opposition compte profiter de ce retour dans l'hémicycle pour pousser le pouvoir à réformer le code électoral. Polycarpe Samba.
De retour au Cameroun depuis deux semaines après de longs mois d'absence pour raisons médicales, Marcel Niat Ndjifendji, le président du Sénat, devrait tenir sa place à l'ouverture de cette session. Une présence indispensable pour éventuellement être reconduit à la tête du Sénat qu'il dirige depuis sa création en 2013. À l'Assemblée nationale, c'est un autre ponte du régime qui tient les rênes de l'institution. Depuis 33 ans, Kavaï Yegué Djibril a été continuellement reconduit. Et cette session de mars 2025, sauf énorme surprise, ne devrait pas faire exception, rappellent les observateurs de la scène politique nationale. Pour l'opposition parlementaire, la session qui s'ouvre pourrait revêtir les atours d'un barreau d'honneur. Ils sont quatre partis politiques pour un total de 16 députés qui voudraient saisir le prétexte de cette session pour amener le pouvoir sur le chantier d'une réforme, fût-elle minimale, du code électoral, entre autres une élection présidentielle à deux tours, l'impression d'un bulletin de vote unique ou encore rendre le vote obligatoire pour tous citoyens ayant la majorité électorale, selon le député Koupi Tadamo de l'UDC. En janvier dernier, le président Paul Biya s'est dit ouvert à ces débats, à la suite de quoi ses partis lui ont fait tenir une copie des réformes qu'il souhaite obtenir avant l'élection présidentielle. Mais en face, ils ont le RDPC, le parti présidentiel, qui compte 10 fois plus de députés. Polycarpe Somba Yaoundé, RFI.
Le monde entier s'en souvient, c'est certain. Il y a 5 ans, le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la pandémie de Covid-19, une pandémie qui mettait alors en lumière la dépendance vaccinale de l'Afrique. L'Union africaine s'est donc donnée pour objectif de développer l'industrie locale. Elle veut que 60% des vaccins nécessaires soient produits sur place d'ici 2040. Et dans cette optique, il y a 4 ans, en 2021, un centre de transfert de la technologie ARN messager a été lancé dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. Alors, où en est-on aujourd'hui? Élément de réponse avec Claire Bargelès.
Le centre a créé sa propre version du vaccin à ARN messager contre le Covid-19. Il n'a pas vocation à être commercialisé puisque la pandémie est passée. Il sert en fait de base d'apprentissage pour transmettre la technologie à d'autres pays. Mais pour le chercheur Patrick Arbuthnot, qui a travaillé sur le développement de ce hub, une fois que les connaissances sont acquises, il reste encore des obstacles.
Le gros problème, c'est d'arriver à se conformer aux exigences réglementaires. C'est une chose de développer un vaccin à ARN dans un laboratoire, mais c'en est une autre de créer un produit qui respecte les normes afin d'être utilisé sur des humains. C'est une étape plus compliquée.
Pour le continent, le Sénégal a déjà pu bénéficier du transfert de technologie. La Tunisie est actuellement formée et l'Égypte, le Kenya et le Nigeria devraient bientôt y avoir accès. Mais ensuite, la production doit être économiquement viable, comme l'explique Petro Terre Blanche. Elle est à la tête de l'entreprise Afrigène qui pilote le projet depuis le Cap.
Nous avons besoin que nos propres gouvernements mettent en place des politiques industrielles pour se fournir localement. Et nous avons aussi besoin d'instruments de financement mixtes afin de développer un ensemble de vaccins. Même si certains présentent de faibles marges, ils sont essentiels pour bâtir les connaissances, les compétences et maintenir les installations.
Afrigène mène désormais des études pour de possibles vaccins contre la tuberculose ou encore la fièvre de la vallée du Rift. Mais l'arrêt des aides américaines pourrait avoir des conséquences sur les recherches autour d'un vaccin contre le VIH. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Et produire des vaccins, c'est bien, mais encore faut-il que la population ait confiance. Enjeu sur lequel se penche le médecin Didier Koumassi Ekwevi. Il vient de publier Au front, regard croisé sur la lutte contre le Covid-19 au Togo. Et pour lui, la confiance viendra lorsque l'Afrique produira ses vaccins.
Il ne s'agit pas seulement de faire des réunions de haut niveau, mais aller vers l'effectivité de la fabrication du vaccin en Afrique. Donc ça, c'est vraiment la volonté politique qui pourra permettre d'aller. Un seul pays ne pourra pas fabriquer des vaccins. Il faut plusieurs pays, que plusieurs pays se réunissent, plusieurs scientifiques puissent se réunir. Et à partir de là, il faut que les vaccins soient fabriqués avec une certaine traçabilité pour établir la confiance au sein de la population. Ça, c'est un point fondamental. Il faudrait que l'Afrique puisse fabriquer ses vaccins. C'est ça qui va rétablir la confiance. Dans la tête de beaucoup de concitoyens, le vaccin est fait pour détruire l'Afrique. Et pour répondre à cette question de façon simple et rétablir la confiance, il faut absolument que les vaccins puissent être développés en Afrique.
Le professeur Didier Koumavi Ekwevi au micro de Peter Sassou Dogbé pour refermer notre dossier. Mais la matinale se poursuit, bien sûr. Vous êtes les bienvenus. Vous retrouvez Andréane Mélard.